les règles.
Le grand mystère des règles.
Peut-on parler des règles féminines?
Non mais là, c'est règles ou quoi?
Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever.
Bienvenue à Menstruel, le podcast qui respecte et qui décrypte vos règles. Bonjour à toutes et à tous. Mais que se passe-t-il? Eh oui, c'est un nouvel épisode de la menstruelle. Ça fait un moment qu'on a disparu, qu'on est allé faire d'autres choses, mais pourquoi pas, on revient aujourd'hui. Et je dis on parce que moi je m'appelle Fanny, mais autour de la table il y a des très très belles personnes. Coucou!
Salut Fanny! Hello.
Alors on a avec nous Lisa, coucou Lisa!
Salut, comment ça va?
Joker, je suis très fatiguée, mais je pense que du coup, tu vois, c'est finalement le bon état pour enregistrer un podcast de la menstruelle. Coucou, on est avec nous Selma, coucou.
Coucou.
Et toi, comment ça va?
Ça va, aussi un petit peu fatiguée, mais je suis très contente d'enregistrer.
Et oui, parce que, alors, on va tout de suite répondre à ces questions-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parce qu'on a sorti notre
dernier... On était encore plus fatiguée pendant 2 ans.
On a sorti notre dernier épisode en janvier 2022. Donc, il y a 2 ans. Et parce que voilà, la vie fait qu'on a envie de faire d'autres choses, on a moins le temps et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on recommence? Alors, on peut dire, ouais, on a eu un sponsor incroyable, c'est l'appel de l'argent. Non, pas
ah
du
bon
tout.
Je n'étais pas au courant. Hein.
T'as gardé le chèque, Fanny?
Non, en fait, c'est juste qu'on avait envie. On s'est dit, bah tiens, on a envie de revenir, de parler de nouveaux sujets. Peut-être qu'on a un peu plus de temps dans notre vie. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, il n'y aura pas de pression, c'est-à-dire qu'il y aura parfois de nouveaux épisodes, mais ce ne sera pas forcément tous les mois, il y en aura de temps en temps, avec des sujets différents, et il y aura peut-être de nouvelles personnes à ce micro. Voilà, on vous tease un petit peu, mais ça va être très très chouette. Donc, pour commencer ce podcast, il y a une question rituelle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas demandé cette question. Comment va votre cycle? Qu'est-ce qui se passe dans votre cycle en ce moment?
Alors moi, après avoir découvert que j'avais une adénomyose en plus de mon SOPK, j'ai décidé de passer à la pilule en continu. Donc je n'ai plus mes règles depuis 6 mois et je vis ma meilleure vie.
Wow. Ah, t'as pas perdu ton temps pendant 2 ans, toi, hein. T'es occupée. Ah,
j'ai décidé que j'en avais marre d'avoir mal tout le temps, d'avoir un PMS horrible. Et là, bah, tout va bien.
Et ça va, elle n'a pas trop d'effets secondaires?
Non, pour le moment, non. Mais en fait, je suis bien suivie, on essaie de regarder ça, mais ça a l'air bien.
Eh ben, go girl, hein. Et toi, Lisa?
Moi, je suis en SPM, là tout de suite. C'est un SPM relativement léger. Ces derniers mois, j'avais plutôt des SPM un petit peu vénères, avec des bonnes migraines, avec des crampes. Puis bah, beaucoup de grosses déprimes, donc c'est pas du tout le cas cette fois-ci. Je sens juste parce que j'ai la poitrine lourde, que ça a été le signe depuis que j'ai 15 ans et mes premières règles, je sais que c'est le signe annonciateur. Et pour une fois, c'est le seul symptôme que j'ai, donc ça va en ce moment.
Moi, je crois que je vais bientôt être en SPM, mais en fait, moi, mes règles, alors des fois, elles sont régulières. Des fois, elle dure 2 semaines. Mais en fait, c'est 2 semaines un peu chiantes parce que c'est hop, du petit spotting pendant 1 semaine où je me dis ok, hop, elles arrivent. J'attends. Et hop, d'un coup, elles arrivent. Et donc, ça dure 2 semaines. Et après, je me dis mais elles vont reprendre quand en fait? Donc là, je sais pas quand est-ce qu'elles arrivent. Elles arrivent peut-être ce week-end, peut-être le week-end d'après. Et j'ai eu un petit peu aussi, là, l'année écoulée. J'ai eu aussi un petit peu des fois des symptômes vraiment. A new symptom. Genre des maux de tête. Juste avant les règles ou le jour de mes règles, mais effroyable. Et des fois oui, des fois non, des fois des envies de vomir, des fois non. Donc je me dis, écoute, voilà, c'est l'âge, des nouveaux symptômes arrivent avec les règles.
Bah, moi, c'est aussi nouveau, les maux de tête, effectivement, à l'approche des règles, des fois au début, des fois juste avant. Et bah, j'avoue, je m'en passais quand même plutôt pas mal. C'était bien conseillé quand il n'y avait pas ça. Donc bon, après, je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Moi, généralement, ça passe avec un antalgique, quoi. Donc, c'est pas incapacitant non plus, pas une migraine en bonne
et due
forme.
Non, moi, c'est plus gênant que vraiment douloureux. Et en plus, j'ai rarement des migraines, en fait. Donc, j'ai cette chance aussi. Mais voilà. Alors, et petit détail, mais en fait, des fois, vraiment, j'ai remarqué à quel point les relations sexuelles peuvent influencer les règles, en fait, que des fois, ça les déclenche. Mais vraiment. Alors, parfois, on dit oui, c'est un mythe. Non, mais bah, moi, concrètement, vraiment, parfois, ça les déclenche. Désolée pour l'image, mais en mode débouchage. En mode let's go.
Oh, mais non.
Non, Non, mais vraiment.
Au pire moment, ils vont.
Ben, moi, j'ai eu presque. En fait, bon, voilà, c'est des détails très intimes. Bonjour. Mais
oui,
en fait,
bon,
des
en temps,
fois.
C'est notre credo.
En fait, c'est que vraiment, une fois où, en fait, vraiment, ça faisait une semaine que j'attendais avec mon mec, je dis, ben, viens, on fait comme ça, au moins, elles vont venir. Et le lendemain, du coup, quand on a fait, ben, elles sont arrivées. Et le lendemain, c'était, ça y est, la mer rouge. Donc, voilà. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde. On va pas dire aux gens, faites du sexe pour avoir vos règles. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était mon... Ah oui, c'est bien, elles arrivent. Donc, j'appelle mon mec le plombier maintenant.
Bref. Est-ce que tu l'appelles Mario? Parce que je te mets en plombier au rouge.
Il a vraiment pas une tête de Mario, mais pourquoi pas, je vais l'appeler comme ça. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? C'est un peu l'épisode du retour, donc on s'est dit on va un petit peu revenir sur pas mal de sujets qui ont été dans l'actualité pendant ces deux dernières années, surtout l'année passée, notamment aussi faire des petits shout-out à des événements et des festivals qui ont eu lieu en lien avec les règles, donc ça c'est très très cool. Et aussi, donc bien sûr, on a menstrué, il y a des recos.
Il y a des recos.
Et est-ce que tu voulais toujours commencer par ta reco, Lisa?
Eh bien, du coup, j'ai deux choses à vous dire pour commencer. J'ai deux sujets à aborder. Le premier, donc, c'est effectivement, c'est une reco, c'est un livre. Et le second, c'est un coup de gueule que vous partagez aussi. Alors, on va commencer par le bouquin. Il s'appelle « Briser le tabou des règles ». C'est de Aline Boeuf. C'est sorti en septembre 2023 aux éditions 41 et tout dans le titre. Hein, mais ça mérite quand même qu'on s'y arrête un peu. Aline Boeuf, elle a travaillé sur le sujet des menstruations pendant ses études de sociologie en Suisse. Elle y a même consacré son mémoire de recherche. Et dans ce livre, elle a décidé de se focaliser sur l'impact des menstruations dans le monde du travail. Elle a voulu vraiment un petit peu isoler cet élément-là. Il y a une première partie où elle décrit quand même les menstruations d'un point de vue scientifique, d'un point de vue social. Et d'ailleurs, c'est truffé de références d'autres livres, d'autres recherches.
On aime les notes de bas de
page. Voilà, non, mais moi, je me suis pris plein de notes. J'ai de quoi lire non-stop règles pendant 6 mois. Bon, je vais alterner un peu quand même, hein, parce qu'il faut varier les plaisirs. Donc en tout cas, si vous voulez approfondir le sujet, c'est un bon moyen d'avoir des sources. Mais vraiment, le cœur du livre, c'est le boulot. Elle a interrogé plusieurs femmes, quelques personnes trans aussi, mais c'est elle qui le dit en fait pas assez pour en tirer des conclusions. Donc, elle se focalise sur les femmes cis dans sa recherche. Et à travers leurs témoignages, en fait, elle aborde comment le tabou est encore très présent dans notre quotidien professionnel. Ça va des réflexions des collègues, le fameux « t'as tes règles ou quoi hein, », qu'on a presque tout entendu à un moment ou à un autre, au désagrément que ça pose, genre choisir ses fringues en fonction de son flux parce qu'on a peur d'une fuite et que bah, c'est peut-être pas le jour pour un pantalon blanc, s'inquiéter parce qu'il n'y a pas de toilette cup-friendly en fait sur son lieu de travail, la gestion du SPM, des douleurs, ce genre de choses. Et elle en arrive assez vite à la conclusion que la réponse, c'est le congé menstruel. Et c'est là que c'est vachement intéressant parce qu'on voit que d'un côté, la plupart des personnes qui répondent à son enquête trouve que c'est hyper positif, le débat autour du congé menstruel, ça permet de parler, de visibiliser, et de l'autre côté, elle ne se voit pas du tout le prendre elle-même. Soit parce que c'est pas possible, par exemple, elle bosse en équipe à flux tendu, il y a une médecin, par exemple, qui est dans les personnes qui sont interrogées, soit parce que ces personnes-là, elles ont peur que ça crée une nouvelle inégalité. En fait, on a déjà des inégalités qui sont liées à la maternité, hein, c'est pas nouveau, les entreprises qui préfèrent embaucher des hommes cis parce qu'il y a moins de chances qu'eux, ils soient absents pendant des mois pour donner naissance. Donc si on ajoute le congé menstruel, il y a un peu l'idée que quelque part, on va se tirer une balle supplémentaire dans le pied, que on n'en a pas tellement besoin. Donc Aline Boeuf, elle comprend toutes ses réserves, mais elle défend quand même l'idée du congé menstruel, parce que d'après elle, en fait, ça participerait à une vraie égalité dans le monde du travail. Donc moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un livre à mettre entre toutes les mains, y compris même en particulier entre les mains des hommes cisgenres, parce que Aline Boeuf, elle cite plusieurs études réalisées plutôt dans le monde anglo-saxon, je crois qu'il y en a une en particulier en Australie, qui montre que les hommes cis ont une très mauvaise image des règles. Alors, on le savait déjà, mais elle va un peu plus loin dans l'analyse. Il y a le classique « c'est dégoûtant », mais ça va plus loin vraiment. Dans les sondages, en fait, on voit qu'une majorité d'hommes pensent que c'est pénible de vivre, de travailler, d'interagir avec une femme pendant qu'elle a ses règles. C'est-à-dire qu'ils se mettent pas à la place de quelqu'un qui a ses règles.
Oh là là.
C'est pas genre « c'est dur de travailler, de fonctionner avec tes règles ». Non, c'est genre « ma collègue a ses règles, oh, elle va être pénible, en fait ».
On en est encore là, donc.
Ouais. Et donc, en fait, c'est de la stigmatisation, ça nourrit la honte, le dégoût autour de la féminité. Donc ça, c'est l'autrice qui l'écrit. Au final, une mauvaise image des règles, ça participe à avoir une mauvaise image des femmes cis. Et puisqu'on parle d'une mauvaise image des femmes cis,
oui,
je passe au deuxième point que je voulais aborder. et je pense qu'on aura toute envie d'en parler, c'est le président français qui a son mot à dire sur ce qu'on doit faire nos utérus. Alors pour celles qui n'ont pas suivi, vous avez bien de la chance, Emmanuel Macron a donné une conférence de presse à la mi-janvier, conférence de presse au cours de laquelle il a fait tout un laïus sur le réarmement démographique. Tom, 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 tom.
La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse. Et je parle là d'une forme de tabou du siècle. Mais les mœurs se changent, on fait des enfants de plus en plus tard, l'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
Parce que oui, en France, on fait de moins en moins de bébés. D'après l'INSEE, donc c'est l'Institut National de la Statistique, on a eu 678 000 naissances en 2023. Et c'est la première fois, en fait, depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on est passé sous la barre des 700 000. Alors du coup, forcément, en panique à droite, mon Dieu, les bonnes femmes qui ne se reproduisent plus alors que c'est leur fonction primaire quand même. Où va la France, je vous le demande.
Mais qui sommes-nous à part un ventre sur pattes?
Bref, Macron nous fait la leçon et je peux dire que ça me surprend, hein, mais bon, clairement, ça me gonfle, surtout venu d'un homme. Surtout venu d'un homme qui n'a pas d'enfants, parce que Brigitte Macron, elle a des enfants, mais Emmanuel Macron, non. Donc visiblement, le devoir à la nation, c'est pas pour tout le monde, hein, voilà, aux armes citoyennes.
Ah non, mais ce sujet, ça m'énerve.
Ça a été épuisant.
C'était vraiment épuisant, enfin, il n'y a rien qui va. Et on peut aussi parler de, enfin, là, ça avait été annoncé, mais là, bon, il n'y a rien de précis pour l'instant. Ils ont dit qu'ils allaient proposer des tests de fertilité à 25 ans. J'ai vu un médecin qui parlait de ça, qui dit qu'en général, en fait, ces tests sont proposés aux personnes qui sont plutôt infertiles et qui ont des problèmes pour faire des bébés. Mais le problème, c'est qu'ils sont souvent pas très fiables, en fait. Ou alors, parfois, on ne sait pas vraiment, on dit, hop, oh, un bébé, mais ça ne diagnostique pas tous les problèmes possibles. Donc, on n'est même pas sûr que ces tests soi-disant de fertilité à 25 ans pourraient vraiment être utiles. Et après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, si on est fertile, ah ben c'est bon madame, faut faire des enfants.
Ouais.
Mais on est où? On n'est pas dans la servante à carotte en fait là les gars?
Systématiser un peu plus facilement, en tout cas favoriser l'accès à ces tests-là. Pour que, tu sais, ça soit par exemple un truc où les médecins se disent, ah ben voilà, on peut faire ça, parce qu'on ne parle pas évidemment d'obligé. C'est plutôt positif. Il y a peut-être des gens, tu vois, qui vont se poser la question, qui vont saisir l'opportunité au vol et puis qui vont découvrir qu'il y a quelque chose qui peut être un obstacle à leur fertilité, qui auront le temps d'agir parce que tu es jeune à 25 ans. Donc moi, dans l'absolu, si tu prends juste cette idée-là, elle me choque pas. C'est juste qu'en fait, c'est dans tout le reste qui va autour. Ça pue la naphtaline, leur truc, en fait, quoi.
En fait, moi, j'ai déjà un problème juste avec le mot utilisé. Réarmement.
Réarmement
démographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
qu'ils l'ont réutilisé il y a pas longtemps pour autre chose. Mais en fait,
mais
ils ont un mot de vocabulaire.
Pour tout, maintenant. Oui. Il y a un mot de vocabulaire, c'est réarmement démographique, réarmement civique, réarmement je sais pas quoi.
Industriel, réarmement agricole.
Déjà, je ne comprends pas cette rhétorique de la guerre. Appliquer là-dessus, ça veut dire quoi? À un moment démographique, c'est que vous êtes en train de me dire qu'il faut faire des enfants parce que peut-être on va avoir une guerre, il faut les envoyer faire la guerre. Je ne comprends pas déjà juste le mot.
D'ailleurs, il y avait un truc qui m'énervait, c'est que dans les débats, les Français ne font pas assez de sexe. Alors si, en fait, hein, ils font du sexe, mais pas des bébés avec. Il y avait vraiment ce côté genre, on n'est pas assez des baiseurs en France. Mais alors, vous n'avez pas compris un truc, en fait, là.
Mais de toute façon, c'est que c'est s'attaquer à un symptôme et pas la cause. Si les gens font moins de bébés, c'est qu'on est en face à des gros problèmes en France. L'hôpital public est en ruine, l'école est en ruine, il n'y a pas de mode de garde, les crèches, ça coûte une blinde.
Et là, ils veulent changer le congé de maternité. Là, ils sont en train de le changer aussi.
Oui, on perd un droit.
Ouais.
On perd un droit. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un congé maternité et ensuite, tu pouvais prendre un congé parental de 1 an, 2 ans.
C'était 3 ans maximum.
3 ans maximum, voilà. Maintenant, en fait, ils veulent supprimer le congé parental pour le remplacer par un congé maternité qui fait 6 mois. En essayant de nous vendre ça comme un nouveau droit qu'on acquiert. Mais je suis désolée, si on perd 3 ans pour 6 mois... Ben, j'ai perdu.
Eux, ils disent, ils te présentent ça comme un équilibre. Le fait que dans cette nouvelle forme du congé, tu seras mieux payé parce que tu seras payé en fonction de ton salaire actuel. Parce que c'est vrai que quand tu partais sur ce congé de potentiellement 3 ans, tu touchais, je crois, au maximum 400 et quelques euros. Enfin, tu deviens du coup dépendante de ton conjoint ou ta conjointe, hein, parce qu'il y avait aussi des hommes, hein, qui prenaient ce congé-là. Enfin, c'était une perte de pouvoir d'achat, clairement, une perte de salaire. Bon, très bien, sachant qu'il y a quand même une limite, il y a un plafond. Et puis en fait, 6 mois, ben oui, au bout de 6 mois, t'en fais quoi de ton gamin? Comme tu l'as dit, Selma, c'est impossible de trouver des places en crèche, de trouver des nounous. Enfin, c'est une galère sans nom. Et en plus, c'est pareil partout, quoi. Je veux dire, on pourrait dire, ok, c'est dans genre les grandes villes, Paris, Lyon, Strasbourg, Marseille. Mais non, 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 moi je vis au fin fond de la Creuse, il n'y a pas de place. Puis alors, il y a quand même un truc aussi, moi je trouve que ça pue aussi le racisme non dit, cette histoire. Parce que la France a un solde positif, en fait. On gagne des habitants, mais grâce à l'immigration.
Et c'est ça, en fait. Et ils viennent de passer une loi extrêmement raciste, qui est la loi immigration. Mais vraiment, c'est comment se faire une balle dans le pied, se tirer une balle dans le pied, de dire oui, alors on va refuser les immigrés. Mais en même temps, ce sont eux qui font les enfants. Regardez l'Allemagne, parce que l'Allemagne a eu le problème qu'on a aujourd'hui d'avoir moins d'enfants et tout. Mais ils ont ouvert aux étrangers et tout ça. Un peu plus. Voilà, donc après, je ne maîtrise absolument pas le sujet. Là, c'est vraiment quelques petites choses comme ça, mais vraiment, je me dis, mais ils ne sont pas cohérents.
Surtout pour qu'à la fin, en fait, on nous traite comme des utérus sur pattes, comme tu as dit.
Tout à fait.
Et je sais pas vous, d'ailleurs, justement, moi, dans mon entourage, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de gens qui ne veulent pas d'enfants, hommes et femmes, que de gens qui en veulent. Après, c'est aussi mon prisme de personne qui vit à Paris, dans un milieu, voilà. Donc, c'est ma petite bulle. Mais le fait est que vraiment, les gens autour de moi, vraiment, le fait des gens qui disent, qui affirment ne pas vouloir d'enfants, autant il y a quelques années, c'était vraiment pas bien vu, autant maintenant, bah oui, en fait, bah ouais, je veux pas d'enfants, quoi, parce que non.
Bah moi, dans ma bulle de campagnarde, les gens s'en foutent, en fait.
Dans la Creuse, oui.
Franchement, c'est hyper appréciable. Alors, je sais que j'ai de la chance, ma famille s'en fout royal. Mais même mes grands-parents, tu vois. Mes parents, pareil, ils s'en fichent royalement. Mes collègues, les gens que j'ai autour de moi, bah globalement, c'est un peu bah, vie ta vie. En fait, tu fais comme tu veux, on va pas te forcer. J'ai une personne qui a du mal à comprendre, mais c'est pas parce qu'elle estime que en tant que femme, je dois faire des enfants. C'est plutôt parce qu'elle estime que c'est que n'importe quel adulte devrait devenir parent dans sa vie parce que c'est la plus grande joie qui existe et que elle, en fait, être parent, ça a été la plus grande joie dans sa vie. Maintenant, être grand-parent, c'est la plus grande joie dans sa vie. Et en fait, on s'entend très très bien.
Elle a envie de partager de la joie avec toi,
c'est
quoi.
Ça. Ouais. Et c'est quelque part un peu dommage qu'elle le voit comme ça. Parce que moi, j'ai pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. En fait, c'est juste un espace disponible que j'utilise pour faire d'autres choses. Surtout qu'en plus, c'est pas comme si les enfants étaient absents de ma vie. J'ai 2 nièces, j'ai une filleule. T'sais, on peut ne pas avoir de désir d'enfant et en fait aimer quand même les enfants et exister dans la vie d'autres enfants que les siens et que d'autres enfants que les siens existent dans la nôtre de vie et y trouver beaucoup de bonheur. Je suis pas en train de dire que le fait d'être tante, c'est exactement la même chose que le fait d'être mère. Évidemment que ça n'a rien à voir, mais en fait, c'est génial aussi. Et ça, j'ai été agréablement surprise de voir qu'en Creuse, parce que moi, je suis pas creusoise pure sucre, hein, ça fait 5 ans que j'y suis, qu'en fait, c'était pas vraiment un sujet. Les gens me foutent la paix.
Ah bah tant mieux.
Moi, dans mon entourage, c'est plus, en fait, il y en a qui le disent plus facilement, qui ne veulent plus d'enfants, mais j'ai aussi des gens qui se retrouvent juste devant un problème logistique. Ben, pas de crèche, pas d'école, pas de garde, pas de... Et l'inflation, le frigo vide, avoir du mal à joindre les deux bouts. Ben, en fait, tu fais pas d'enfants dans ce cas-là. Mm-hmm. Surtout que maintenant, tu as le choix. Donc, les gens ont envie d'avoir des enfants pour leur donner la meilleure vie possible. Et quand tu te rends compte que ce n'est pas possible, tu fais le choix de ne pas en avoir. Il y a aussi tout ce qui est anxiété climatique, les infos, tout le climat anxiogène dans lequel on vit. Les gens n'ont plus envie.
Et puis, il faut le dire aussi, moi, personnellement, je n'ai pas envie, mais de façon très égoïste, c'est que je veux vivre pour moi, en fait.
Mmh. Oui.
Et que je ne suis pas prête au sacrifice qu'il faut faire pour avoir des enfants.
Complètement.
Ça, c'est vraiment aussi... Mais je me dis, mais là, j'aime bien ma vie, même si parfois elle est un peu compliquée. Mais je n'ai pas envie, en fait, d'avoir un enfant qui forcément va bouleverser ma vie. Mais là, je ne suis pas prête à ça. Vu que mon désir d'enfant, il est à peu près de 1%, je vérifie souvent que j'ai bien mes propres raisons, que je suis logique et tout ça, vraiment très souvent. Je dis, mais là, ce n'est pas possible, en fait. Non, non.
Je suis un peu comme toi, j'adore ma vie, en fait. Et... Enfin, je vais avouer, hein, j'adore rentrer chez moi et des fois j'ai la flemme et je mange des chips et je vais aller dormir.
Ben oui.
Une certaine corrélation existe entre les champs magnétiques et des risques sanitaires. Je ne suis tenu à rien du tout.
Intérêt à faire quelque chose, j'ai déjà largué mon utérus, j'ai pas envie de perdre d'autres pièces.
Je vous propose qu'on passe peut-être aux autres sujets d'actualité qui ont un petit peu marqué, parce que je pense qu'on reviendra sur ces sujets et tout ça, bien sûr. Oui. Alors, quelques sujets, vraiment, on en a listé quelques-uns, donc là, c'est un peu le plus récent. En août 2023, il y a eu quand même un truc, et vraiment, quand c'est sorti, ça, c'était l'info qui nous a tous fait hurler. On a enfin utilisé du vrai sang pour tester des protections hygiéniques.
Parce qu'avant, c'était de l'eau, c'est ça, en fait.
C'était, oui, ou des liquides hygiéniques, enfin, c'est du liquide spécial et tout ça.
Ah ouais, parce que moi, j'avais lu que c'était de l'eau, en fait, oui. C'était même pas des liquides avec une viscosité comparable.
Non, non, c'était la viscosité de l'eau. Et c'était, en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je re-entends, c'est...
surréaliste.
À chaque fois, je m'énerve. Je pensais que c'était passé depuis août, que j'avais intégré l'information. Mais non, je m'énerve comme la première fois que j'entends ça. Je me dis, mais quand même, pourquoi ?
Comment personne n'y a pensé avant ? Et même, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça marche autant quand même ? Enfin, ils ont de la chance, les gars.
Ça marche pas tant que ça. C'est que pendant très très longtemps, on n'avait que ça comme choix.
Oui, c'est vrai.
Surtout. En tout cas, moi, ça m'a expliqué pourquoi, de temps en temps, j'avais tellement... Quand j'utilisais des serviettes ou des tampons, des fois, j'avais des fuites inexplicables. C'est-à-dire que, tu sais, tu regardes ta serviette, elle n'est pas pleine, mais tu as une fuite quand même. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est la viscosité qui m'explique tout ça.
C'est que je ne saigne pas de l'eau, moi.
Voilà.
Vraiment. Et alors, je cite un article que je vois, en fait. Donc, c'est Élise Thiébaud qui a parlé dans Libération que, en médecine, le corps standard utilisé pour les études est masculin et les cobayes animaux sont aussi des mâles. Ben oui, en fait. Et tu sais, à chaque fois qu'on parle de ça, de ce sujet, je pensais à quand on avait dit que quand il y a eu des tests sur le Viagra, quand ça avait été fait vraiment à l'époque, on avait vu que ça avait des effets bénéfiques sous la douleur des règles, mais que les gens qui faisaient ça disaient « Oh bon non, c'est pas très utile ».
Le genre de... Exactement. En fait, oui, mémoire, oui. C'était que... Je sais plus exactement ce qu'ils faisaient comme recherche à la base. Et ils ont trouvé ce médicament qui avait deux effets qu'ils n'avaient pas prévus. Le premier, c'était le Viagra, donc ce qui est devenu le Viagra. Et le deuxième effet non prévu, c'était qu'effectivement, ça réduisait de manière très importante les dysménorrhées, donc les douleurs liées aux règles. Et que ils s'étaient posé la question de laquelle des deux on va commercialiser. Je pense qu'ils ne se sont pas vraiment posé la question, en fait. C'est devenu le Viagra. Mais je crois que depuis, il y a des études qui sont en cours pour vérifier comment est-ce qu'on peut utiliser cette molécule pour mettre au point de nouveaux médicaments dans la gestion des douleurs menstruelles. Après, la dernière fois qu'on a parlé de ça, ça remonte à 2-3 ans.
Oui,
j'ai
voilà.
Pas vu grand-chose sortir depuis, quoi.
Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet qui nous a bien énervé. Alors, un autre sujet qui est là à prendre avec des précautions, parce que c'est pas tout à fait sûr, c'est donc à étudier avec du conditionnel, une étude qui est sortie en octobre 2023, comme quoi le space-fond ne serait pas vraiment efficace pour soulager les règles.
Moi, je l'ai entendu il y a plusieurs années déjà, en fait, que le space-fond, ça marchait uniquement sur l'effet placebo.
Enfin, moi, j'avoue que le space-fond n'a jamais eu d'effet sur moi. Donc, ça faisait des années que j'avais même plus entendu le nom de ce médicament parce que ça ne m'intéressait pas du tout. Mais effectivement, j'étais tombée aussi sur un fil d'un médecin qui disait que lui, il n'avait jamais prescrit le space-fond parce qu'il pensait que ça n'avait aucun effet sur les dysménorrhées.
Alors, je cite l'autrice. Donc, c'était... la chercheuse Juliette Ferry-Danini, qui a sorti donc aux éditions Stock un livre qui s'appelle « Pilule rose ». Ensuite, ça c'était... Alors, je reviens un petit peu en arrière. En mars 2023, vous vous rappelez, on avait une première ministre qui s'appelait Elisabeth Borne. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette femme. Eh bien, ça avait été annoncé qu'en 2024, donc là, cette année maintenant, les protections hygiéniques réutilisables seraient remboursées par la Sécurité sociale pour les jeunes. Attention, encore une... Pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc... Là, on va voir, est-ce que ça va être appliqué ou pas ? On va voir. Mais déjà, qu'est-ce que vous en pensiez de cette information ?
Moi, je la prends un peu avec des pincettes parce qu'il y a un peu plus longtemps que ça, on nous avait aussi annoncé que dans les universités françaises, il y aurait des points avec des protections périodiques disponibles gratuitement pour les étudiantes. Je crois qu'ils avaient annoncé 1500 points dans les campus partout en France. Et j'ai vu récemment que on n'était même pas à la moitié, alors je crois que ça a été annoncé il y a un an et demi, deux ans peut-être, quelque chose comme ça. Donc sur le papier, très bien, on est tout à fait pour, ça peut lutter contre la précarité menstruelle. Dans les faits, on attend de voir.
Et puis surtout le remboursement, en fait, moi je trouve ça un peu bizarre, c'est un peu, alors mon parallèle est un peu chelou, c'est un peu quand quelqu'un t'offre une box d'un truc, genre faire une expérience, une fois sur deux t'as pas le temps de le faire ou t'as la flemme, et donc en fait la personne a juste payé et le service de box machin en poche l'argent. Mais là je me dis, en fait les gens vont peut-être avoir la flemme d'aller se faire rembourser par la sécu et tout ça. Donc en soi, c'est une mesure en mode « ouais, mais allez le faire !» Mais on sait que les gens ont la flemme, en fait, au go. Est-ce que c'est une vraie mesure, quoi ?
Moi, je trouve que c'est bien, mais pas suffisant, parce que c'est que pour les jeunes. Et en fait, disons-le clairement, nous les femmes, on passe notre temps à payer des protections menstruelles que les hommes ne paient pas, et ça creuse une inégalité encore plus forte. Déjà qu'on gagne moins que les hommes, en plus on paye plus de trucs qu'eux, ça marche pas trop. Donc, quitte à faire ça, en fait, moi, pour moi, ça devrait être gratuit pour toutes les femmes, quel que soit l'âge. Et pas en mode remboursement, parce qu'effectivement, ça marche pas, cette histoire de remboursement. Il y a la moitié qui vont laisser tomber. Enfin, je sais pas, mais moi, déjà, j'ai du mal à me faire rembourser mes trucs de médecin qui me fait une feuille de soins.
Bah, c'est ça. D'ailleurs, tiens, faisons un petit point aussi, juste voir. On a parlé de nos utérus tout à l'heure. Bon, alors, toi, Selma, tu n'as pas de protection en ce moment. Toi, Lisa, est-ce que tu es toujours sur la cup ? Est-ce que t'es...
Non, parce que je pense que... Alors, c'est important de le souligner, mais en fait, il y a plusieurs modèles de cup. Il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs formes, parce que depuis que la cup a vu le jour, y a plusieurs entreprises qui ont proposé leur propre forme. C'est globalement toujours la même chose, mais des fois des petits changements, des petites modifications, ça peut faire une différence, et je pense que la mienne, elle me convient pas parfaitement, parce qu'en fait moi j'ai jamais réussi à l'utiliser sans avoir de fuite. Donc là je suis plutôt revenue au tampon, j'achète des marques bio pour essayer de limiter un peu les dégâts, même si bon c'est pas génial. J'envisage de tester d'autres modèles de cup pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui pourrait me convenir, parce que en fait c'est vrai que l'avantage de la cup, si tu l'as toujours dans ton sac, t'es jamais pris par surprise, parce que les tampons, il y a 2 mois, mes règles sont arrivées au boulot, et je me suis retrouvée comme une quiche, avec rien. J'avais pas de boîte de tampons au travail, j'avais pas de collègues qui en avaient, j'ai fait à l'ancienne, le papier toilette roulé dans la culotte, et c'est quand même pas très très agréable.
Ah non, ouais.
Moi j'avais arrêté la cup juste parce que ça me faisait des douleurs beaucoup plus grosses, et j'étais passée aux culottes menstruelles avant d'arrêter mes règles complètement. Et en fait j'étais tombée sur un article qui disait que pour par exemple les utérus rétroversés, quand tu avais la cup, ça appuyait quelque part qui faisait que ça augmentait les douleurs. Et donc après, il faut voir si avec le nouveau modèle, ils ont réussi à adresser ce problème-là. Mais j'avais arrêté juste à cause des douleurs.
Oui, puis tu as des gens, de toute façon, ils ne supportent pas les protections internes. C'est juste pas possible pour diverses raisons. Quoi.
Ben, moi, je suis là-dedans, j'ai toujours pas essayé. En fait, vraiment, j'ai jamais essayé la cup parce que vu que comme le tampon m'a toujours fait mal... et que je pense que j'ai des problèmes de parfois un peu de sécheresse. Bref, vous savez beaucoup trop de choses sur mon intimité dans cet épisode. Mais... j'ai jamais fait le pas, j'ai jamais sauté le pas, donc je suis toujours restée aux serviettes. J'ai un peu des fois des culottes menstruelles, mais en fait, parfois, je trouve qu'elles ont des problèmes d'absorption ou que parfois, ça passe, quoi. Enfin, j'ai des fuites. Donc, en fait, moi, avec une serviette, je me sens plus tranquille et tout ça. Mais là, il y a quoi ? Il y a quelques semaines, quand je vous avais dit d'ailleurs, j'ai eu des fuites en pleine nuit. Avec la tache de sang dans le lit.
Oh là là.
Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, vraiment. Là, mes règles un peu chaotiques parfois, mais autant des fois, vraiment. Il y a quelques mois, ça avait été génial. Elles avaient duré 4 jours. Mais 4 jours hyper intenses, mais hop, 4 jours, c'était plié. J'étais heureuse. Oh là, c'était trop bien. Donc voilà. Donc c'était ce petit point aussi, protection. Un autre truc, alors ça, c'est un peu plus général. C'est qu'il y a donc un article, mais on en parle beaucoup aussi dans l'actualité en général, c'est que les jeunes. Alors, les jeunes, attention, les jeunes d'aujourd'hui...
C'est comme les femmes.
Les jeunes cherchent des réponses à leurs questions, et donc des réponses à leurs questions sur la sexualité, sur TikTok. Et qu'en fait, vraiment, TikTok est devenu un moyen de recherche, mais vraiment, alors ça a été confirmé quand j'ai posé des questions à des jeunes. Bref,
c'est pas un son. T'en connais encore, toi ?
J'ai des beaux-fils, en fait, maintenant, donc voilà. Je discute parfois un peu, mais vraiment, j'en ai parlé avec d'autres enfants. Bon, c'est pas un échantillon très représentatif, mais en tout cas, oui, c'est que maintenant, les enfants... Bon, déjà, les jeunes ont ce côté où ils ont un téléphone dans les mains, mais ils ne savent pas vraiment l'utiliser, donc il y a la fracture numérique et tout ça, mais même, en fait, TikTok devient un... Même, j'ai vu quelqu'un qui disait, moi, quand je veux trouver un restaurant, je vais sur TikTok. Dans le sens où ils n'ont pas le réflexe Google Maps.
En fait, c'est le nouveau Google pour eux.
C'est ça, exactement. Du coup, avec les questions de sexualité, ça fait peut-être qu'ils peuvent tomber sur certains contenus qui sont plus mis en avant parce qu'ils sont viraux, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Et donc, je me dis, c'est aussi pour ça que je pense que j'avais envie qu'on reprenne la menstruelle. Je me dis, mais en fait, il y a encore besoin de contenu pour informer les gens aussi, pour parler de ces, pour parler de ces sujets. Donc vraiment, qu'est-ce que vous en pensez déjà, ce côté TikTok et le nouveau Google des jeunes?
Après, c'est un outil, quoi, en fait. Donc c'est comme tout, t'as du bon, t'as du moins bon. Enfin, c'est comme nos grands-parents qui, des fois, nous disent « Oh, les internets, machin, vos trucs de jeunes, il y a tout et n'importe quoi, c'est nul, ces choses-là. » Non, enfin, c'est un outil, en fait. Après, c'est ce que tu en fais. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, ça me rappelle un passage, justement, dans le livre « Briser le tabou des règles » dont je vous parlais tout à l'heure, où elle a interviewé des professeurs en Suisse dont la spécialité, c'est justement l'éducation à la santé sexuelle. Dans le programme suisse, je crois que c'est 3 heures tous les ans, ou 3 heures tous les 2 ans, quelque chose dans ce goût-là. Et ce qui ressortait, c'était que les jeunes étaient à la fois peu informés sur les questions menstruelles, et en même temps, la surprise, c'était qu'il y avait beaucoup de garçons qui savaient comment fonctionnent les règles, qui avaient plein d'infos, et typiquement, en classe, est-ce que vous savez comment ça fonctionne les règles? C'est les garçons qui vont lever plus facilement la main. Donc ça, c'est les expériences qu'elle raconte dans le livre, hein, c'est pas une vérité générale. Et souvent, généralement, à la surprise des filles, ils disent « Mais comment tu savais ça ?» Donc je me dis, finalement, si ça peut permettre de faire exister le sujet assez rapidement dans la vie des adolescents...
Qu'il soit normalisé, ouais.
Juste pour pas que ça continue, même si ça doit continuer, ce que nous, on a vécu, à savoir le truc où tu oses surtout pas... Il faut pas que moi, quand j'étais au collège, il fallait pas que les garçons sachent qu'on avait nos règles. C'était la honte ultime. Donc on planquait nos tampons et nos serviettes. Enfin, t'avais l'impression qu'on était en train de dealer du crack, quoi. Le truc, c'est...
Moi, j'ai plutôt un biais, on va dire que c'est un biais professionnel, mais c'est pas tant le fait qu'ils se renseignent sur TikTok qui me dérange, c'est juste que Internet, les ordinateurs, le téléphone, il faut une éducation à l'utiliser et à savoir filtrer les choses, comment chercher les choses, comment comprendre les choses, être en mesure de reconnaître que c'est une pub ou un contenu viral qui est mis en avant, ça ne veut pas forcément dire que la personne est en train de dire une vérité vraie ou quelque chose comme ça, c'est juste apprendre ça.
Du coup, avec mes beaux-fils, petite expérience.
Ils ont quel âge ?
Alors, ils ont 14 et 8 ans. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une fois où j'ai dit que j'ai parlé des règles, mais alors j'ai clairement vu que le grand a compris, mais en fait, mon mec m'a dit « Non, mais n'en parle pas devant le petit ». Et en vrai, au début, je me dis « Quand même ». Et après, je me suis dit « Quand même, oui, il a 8 ans. C'est quand même un peu tôt pour aborder ça. Laissons-lui encore un peu de son innocence. » Parce que là encore, il n'a pas des copines qui en ont autour de lui. Et au début, je me dis « Quand même, on peut en parler ». Après, je me suis dit « C'est vrai que là, il aura tout le temps d'apprendre ça dans quelques années. Donc, allons-y petit à petit. » Mais déjà, le grand, il me fait rire. Parce que alors, il parle pas beaucoup. Mais des fois, il fait des regards en coin, donc comme ça, donc tu sais qu'il participe quand même. Donc une fois, j'avais parlé de ça, j'ai vu qu'il avait fait genre « Wow, elle vient de dire quoi, là ?» Voilà, mais en tout cas, là, depuis... maintenant, je suis vraiment de partie d'en parler tout le temps. Enfin, quand j'ai mes règles, je dis « Ouais, j'ai mes règles, donc là, c'est un petit peu dur. » Mais même quand je suis en société, même avec des potes, alors peut-être pas au boulot, de toute façon, au boulot, j'ai pas de boulot, vu que je suis si j'ai un boulot, je suis freelance, mais j'ai pas...
Dis pas que t'as pas de boulot.
Si, t'as pas un open space. J'ai pas un open space.
Tu vas pas dans un bureau.
Et,
avec
et quand je fais des interviews de quelqu'un que je viens de rencontrer, je vais peut-être pas en parler tout de suite, quoi. Quoique, avec les femmes, oui, je pense qu'avec les femmes, j'arrive à en parler, même si je viens de les rencontrer, parce que je me dis, c'est comme dire que t'as un mal de tête, quoi. Dire, oui, voilà, j'ai mes règles, je suis pas très en forme, mais je me dis, et j'essaye vraiment de le normaliser et tout ça, et donc d'en parler souvent.
C'est aussi pour ça que c'est bien d'en parler tôt aux enfants, je pense, pour désamorcer le choc que ça peut être. J'en reviens encore une fois à ce bouquin, en fait, Briser le tabou des règles, où elle dit que les jeunes qui ont leurs règles, il y a plusieurs manières de découvrir ce que c'est. T'as la manière forte, ça arrive, et puis surprise en fait, ça va revenir tous les mois, et t'en as jamais entendu parler de ta vie. Et t'as ceux qui, les personnes qu'elle appelle les retardataires, entre guillemets, moi c'était typiquement mon cas, c'était la dernière du groupe de copines. Donc en fait, tout le monde les avait déjà eues, j'étais parfaitement au courant de ce qu'il fallait, j'étais prête de chez prête, de chez prête. J'attendais que ça arrive pour avoir enfin mon saut de t'es rentrée dans l'âge adulte.
Ouais.
Et puis tu regrettes jour 2, concrètement. Et t'as les personnes qui ont été préparées par leurs parents, avec qui ça a été évoqué, et finalement, ce qu'elle disait, c'est que c'était très choquant pour les enfants qu'on n'avait jamais entendu parler. Mais en fait, même pour les garçons, quand genre à 10-12 ans, ils peuvent découvrir que ça existe, c'est un peu étrange pour eux de se dire « mais que tu perds du sang ». Parce que nous, on est habitués maintenant, on a toute une trentaine d'années autour, même un peu plus, autour de disons que ça fait quelques années qu'on a une trentaine d'années.
On ne dira pas précisément.
Donc maintenant, c'est rentré dans notre normalité, mais quand il réfléchit que t'es jeune. En plus, c'est pas ton expérience corporelle à toi. Et que ben, le sang, il est associé à la blessure, à des choses comme ça. Ça doit être tellement étrange. Et que ben, même pour certains enfants, c'est tellement choquant. Et là, c'est ce que racontaient par exemple les professeurs suisses que j'évoquais tout à l'heure, que le simple fait d'évoquer le sang qui s'écoule du vagin, il y a des gamins, ils s'évanouissent en classe, quoi. Bon, c'est exceptionnel, ouais. mais ça arrive en fait pour dire que ben, quand ils sont pas du tout préparés et que ça existe jamais dans leur vie, que ça tombe comme ça, boum, ben, comme les règles par exemple, tiens, surprise, ça peut être un peu choquant.
Petit moment pas marrant, c'est qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens et que les petites filles ont leurs règles de plus en plus tôt. Donc il vaut mieux en parler plus tôt aussi.
Si les hommes avaient leurs règles une seule fois dans leur vie d'homme, les tampons seraient gratuits. Et tu pourrais te faire avorter à l'épicerie. Ils seraient... Je suis sérieuse. Ils seraient allongés là du genre « Vous mettrez aussi une brique de lait d'amande et une cartouche de cigarette, le tout sur ma note. »
Bon, et dans les sujets qu'il y a eu beaucoup en 2023, il y a le congé menstruel qu'on a déjà pas mal évoqué. Mais on fera un épisode spécial là-dessus, c'est ça Lisa, bientôt?
Oui. Alors en fait, c'est vrai que le sujet est dans l'actualité depuis quelques temps, parce qu'il y a l'Espagne en février 2023 qui a adopté une loi qui installe un congé menstruel. Et depuis, alors en France, il y a eu une proposition de loi qui a été déposée. Et surprise, surprise, qui a été refusée par le Sénat. On est très, très étonnés. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'il y a des villes, des conseils départementaux, des régions qui ont décidé de lancer ça. Il y a la ville de Grenoble, il y a Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis.
Abbeville aussi, j'avais vu.
Exactement, Abbeville en Picardie. Il y a la métropole de Lyon, il y a le département de la Gironde, il y a la Nouvelle-Aquitaine. Alors, bon, c'est des projets qui sont plus ou moins avancés, il y a des endroits où c'est en place, il y a des endroits où c'est en projet, il y a des entreprises qui s'y sont mises. Voilà, il y a clairement de quoi dire beaucoup, beaucoup de choses, donc on se penchera dessus à un moment pour vous faire un long épisode bien développé là-dessus.
Mais oui, voilà. Alors avant de parler de d'autres sujets d'actualité, peut-être est-ce que tu veux faire ta reco, Selma?
Oui, alors ma reco, c'est... ça n'a pas à voir avec les règles, mais c'est un super roman qui s'appelle Un monde plus sale que moi, de Capucine Delattre. Ce n'est pas un roman fun. Je précise.
Spoiler.
Au cas où, avec le titre, on se dirait « Oh, ça parle de Rose ». Non. Alors, c'est une jeune autrice qui a fait son premier roman, je crois. Et elle parle de comment vit-on sa sexualité quand on a 17 ans, pile au moment où il y a MeToo.
Waouh.
Et...
Vaste sujet,
et le roman est assez extraordinaire, et même j'ai beaucoup eu de mal à le lire et à le finir, parce que ça aborde aussi les agressions sexuelles, mais d'une manière où on comprend bien, en fait on est dans la tête de l'héroïne, et on comprend bien comment ça peut être complètement pernicieux, en fait. C'est pas l'inconnu qui t'attend au coin de rue pour te violer, absolument pas. En général, c'est un proche, un copain. Il y a des aspects du viol conjugaux qui sont abordés. J'ai pas envie d'en dire plus parce que vraiment, c'est super bien écrit. J'ai beaucoup aimé et c'est ma reco du jour.
Ben voilà, on mettra de toute façon, ah oui, on l'a pas dit, mais on va essayer de vous mettre en description de l'épisode beaucoup de liens vers ce qu'on évoque, le maximum. Parce que j'ai vu que maintenant, les hébergeurs de podcasts limitent le nombre de caractères de ce qu'on peut mettre en description d'épisodes, parfois. Donc des fois, on va devoir un petit peu se limiter.
Voilà, bon, on se rattrapera sur les réseaux sociaux.
Oui, voilà. Et donc, on va un petit peu parler de d'autres choses aussi, notamment, alors on va évoquer donc des événements qui ont eu lieu en lien avec les règles. Alors, on n'y a pas assisté, mais c'est juste vraiment l'occasion de faire un petit rappel de ce qu'il y a eu et voir peut-être que ça se reproduira, on espère, dans les années suivantes. Alors, il y en a eu beaucoup en novembre 2023. Est-ce qu'il y avait une actualité particulière pour laquelle je me demande, est-ce que c'était une date ou quoi? Ça, c'est à creuser, vraiment, si auditeur, auditrice, quelqu'un a la réponse. Pourquoi il y a eu plein de festivals au mois de novembre?
Lié aux règles.
Oui, lié aux règles. Donc vraiment, je me dis, est-ce qu'il y a un sujet, ou alors est-ce que le mois de novembre est le mois des festivals? Je ne sais pas. Je vais vraiment en citer juste quelques-uns, mais comme ça, à voir, peut-être regarder dans votre région s'il y en a eu d'autres ou s'il va y en avoir d'autres. Il y en avait un sur le territoire de Châteaubriant, donc en Loire-Atlantique, un festival Les Règles, parlons-en. On avait, alors, on adore le titre, en Gironde, alors vraiment au Rocher de Palmer de Sénon. C'était Ragnagna Party. le 25 et 26 novembre 2023. Donc là, c'est vraiment un événement qui parlait des règles, mais vraiment avec le côté un peu festif. Il y avait plein de choses. Ça parlait pas seulement des règles, mais de consentement, de choix contraceptifs, de lutte contre la précarité menstruelle. Donc là, ça avait l'air trop, trop cool. Et il y a eu aussi à Poitiers, toujours en novembre, vraiment, du 21 au 26 novembre, il y a eu un festival à Poitiers, le festival Les Menstrueuses.
J'adore
là aussi,
nom.
Le nom est trop bien. De toute façon, les règles, ça donne toujours des noms chouettes quand on fait des choses oui. Autour.
C'est vrai.
Et on avait vu à Bruxelles, il y avait eu quelque chose aussi.
Les Menstruosités, je crois que ça s'appelle.
C'est ça,
c'était une exposition, en l'occurrence. Je n'ai pas pu y aller et je regrette beaucoup parce que ça avait l'air vraiment, vraiment intéressant. Il y a un compte Instagram qui est associé à cette exposition. Donc vous pouvez aller voir sur Instagram parce que c'est déjà vachement...
Menstruosité, là aussi. Ouais. Bravo pour le nom, c'est trop chouette. Donc là, vraiment, c'était une exposition effectivement liée aux règles. Donc vraiment, là, c'était juste pour vous dire qu'il y a des choses qui se tiennent. Et le fait que ce soit tout en novembre, ça m'a beaucoup fait rire, en fait, parce que je me dis, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe pour qu'en novembre, il y ait tout ça ? À signaler aussi... Alors bon, il y a eu donc le livre qui est sorti dont tu as parlé, Lisa. Il y a eu aussi, en avril 2023, une étude sur les règles à l'école, qui était notamment faite par Règles élémentaires, dont on a déjà parlé pas mal de fois dans les menstruels. Donc là, vraiment, c'était avec Opinion Way, vraiment, donc là, pour parler des règles à l'école, et on espère peut-être que ça peut faire un peu changer les choses. On en a parlé et tout ça. Et aussi, on voit que on en parle, enfin dans les livres et tout ça, j'ai l'impression que ça devient aussi plus présent comme sujet. Donc ça, c'est plutôt cool.
Moi, je voulais évoquer le test HPV ou SIDA qu'on pouvait faire en autotest qui est apparemment sorti. Alors, j'ai pas réussi à trouver plus d'infos que ça, mais apparemment ça existe et ça pourrait éviter à certaines femmes d'aller chez le gynéco faire un frottis si jamais c'est quelque chose qui est traumatisant ou qu'on n'a pas envie de faire. On pourrait faire un autotest pour ça et j'ai trouvé ça très intéressant.
Oui, mais c'est génial qu'il y ait ça.
De toute façon, plus d'autonomie dans la gestion de notre santé gynécologique, on voit que c'est toujours positif.
Et justement, on avait remarqué aussi une info, c'est que la Haute Autorité de Santé a proposé que des femmes puissent avoir accès à un test salivaire qui permettrait de diagnostiquer l'endométriose. Donc là, on est quand même sur un gros, gros, gros sujet. Mmh. Ça, je trouve aussi, on en parle de plus en plus de l'endométriose. Vraiment, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est vraiment arrivé bien, bien, bien dans l'actualité.
Et ça me fait plaisir parce que j'entends aussi parler du SOPK beaucoup plus dans l'actualité.
Eh ben, j'allais te poser la question parce que je me disais que d'un côté, c'était vachement chouette parce que non seulement on en parle, mais c'est pas juste des articles qui sortent de manière plus régulière, des témoignages, des choses comme ça. C'est que ça se retrouve aussi dans la recherche. On dirait qu'il y a plus de fonds, qu'il y a plus de choses. Mais j'avais un peu l'impression que ça invisibilisait beaucoup d'autres troubles liés aux menstruations, le SOPK, mais aussi, en fait, on peut avoir des dysménorrhées très, très importantes, des douleurs très violentes, sans avoir de l'endométriose. Moi, j'ai pas d'endométriose, mais j'ai des douleurs qui me mettent par terre, quoi.
Oui, mais en fait, j'ai l'impression que par effet de bord, comme on parle de l'endométriose et que c'est un sujet lié aux règles, par effet de bord, en fait, ça libère la parole sur les règles et ça a libéré la parole sur des sujets autour, et donc d'autres maladies aussi, parce que après, effectivement, je suis concernée, donc j'ai tendance à le voir. Mais effectivement, je vois parler de SOPK un peu plus, de la démonomiose et des choses comme ça. Et ça fait plaisir. Et ouais. Je commence aussi à avoir des solutions pour le gérer.
Ah, ça, c'est bien.
C'est encore mieux.
Moi, je l'ai vu aussi, c'est que quand des fois j'ai des douleurs, eh ben, j'ai des gens, alors les personnes peut-être qui ne me connaissent pas encore bien ou quoi, qui me disent « Mais t'es sûre, t'as pas de l'endométriose ?» J'ai dit « Ok, bon, déjà, c'est bien. Ils connaissent le terme, donc venant d'hommes cisgenres et tout ça. » Je dis « Mais non, c'est pas parce que j'ai mal que j'ai forcément ça. Et je pense vraiment, je suis sûre que je n'en ai pas, parce que c'est pas du tout des douleurs qui sont de l'endométriose. Moi, vu que c'est dans les jambes, toujours, moi, c'est juste, j'ai les jambes super lourdes et j'ai des contractions, mais dans les jambes quand j'ai mes règles. Bref. Donc déjà, je me dis, ok, c'est à rentrer un peu plus dans les mentalités que oui, il y a cette maladie liée aux règles. Donc je trouve que c'est déjà un point positif qu'on la parole soit libérée, donc après sur d'autres maladies aussi.
Et puis même, en fait, sur le fait que vivre ses règles, c'est pas toujours une partie de plaisir. J'ai l'impression que moi, dans mon entourage, je vois de plus en plus de personnes non menstruées qui ont un socle de connaissances de base un peu plus étoffé qu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, et qui en plus ont aussi peut-être un peu plus d'empathie vis-à-vis de ça.
Et j'ai le cas, moi, dans mes amis. Alors, c'était il y a quelques temps, et c'était vraiment une soirée où un homme cisgenre avait des protections hygiéniques dans son sac.
Mais c'est génial.
Il a, alors, bien sûr, il n'a pas un stock énorme, mais il dit, oui, j'ai toujours un tampon et une serviette dans mon sac.
Trop bien.
Comme ça, au cas où j'ai une amie avec qui je suis ou ma compagne qui en a besoin, hop, j'ai ça pour elle. Je dis, mais c'est génial. Mais au nom de la moitié de l'humanité, je te remercie.
Ça, c'est ce qu'on appelle un green flag chez un monsieur.
C'est clairement, oui, tu dis, mais c'est vraiment un bon signe et une bonne initiative. Parce que même des fois, je me dis, mais moi, j'ai oublié d'en mettre dans mon propre sac. Et lui, il y pense. Waouh, bravo, mec. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, pour envoyer des bons signaux, pour voilà, je trouve que c'est une bonne initiative. Bon, alors, je vais finir avec ma roco. Alors, c'est une roco placard. C'est-à-dire, j'étais la première à me dire, non, mais il y a plein de sujets qu'on peut recommander liés aux règles. Bon, clairement, mon état de fatigue et mon surménage de travail a fait que non, j'ai pas d'idée. Donc, j'ai pensé à ce livre que j'ai lu il y a quelques années, qui est sorti en 2018, qui s'appelle Le Pouvoir de Naomi Alderman. Alors, je crois que ça a été adapté en série ou en film, même il y a pas longtemps. Mais j'aime pas
c'est
trop.
C'est la série, là, je crois que j'ai vu. Hein,
avec des femmes qui ont des pouvoirs.
Ouais,
oui, c'est
sur
ça.
Ah, j'ai vu une bande-annonce passer.
Mais en général, moi, j'aime pas regarder les adaptations de livres que j'ai bien aimés parce que j'ai peur. Bon, alors, bien sûr. On met
ça, c'est le syndrome Harry Potter.
On met de côté. Non, on met de côté Harry Potter et Seigneur des Anneaux parce que j'étais jeune quand c'est sorti. Bref. Mais en tout cas, donc, ce livre, Le Pouvoir, en fait, je vous dis juste le début. Donc, en fait, les femmes développent des pouvoirs, mais vraiment des pouvoirs un peu, notamment d'électricité. Pour montrer aussi l'esprit du livre, c'est qu'on a le nom de Margaret Atwood, donc, qui a écrit La Servante écarlate, qui cite que c'est un livre électrisant. Bref, et si les femmes avaient des pouvoirs et en profiter pour prendre le pouvoir. En fait, c'est ça qui est bien dans ce livre aussi, c'est que c'est pas juste des femmes qui se révèlent des sorcières et qui commencent à faire Sabrina. Non, en fait, c'est des femmes qui ont un pouvoir physique et commencent à être violentes.
On renverse la domination, en fait.
Mais en fait, pourquoi il n'y a que les mecs qui pourraient détruire des immeubles quand ils ont un pouvoir de Superman ? C'est assez... je pense que c'est une des premières fois, en tout cas, que moi, je lisais... Alors, je ne lis pas énormément de livres, clairement. Mais en tout cas, je pense que ça m'avait beaucoup marqué en lisant ce livre-là. Vraiment, une femme qui a du pouvoir physique, de pouvoir voilà, magique, en quelque sorte, et qui se dit... Et qui dit, en fait, je vais en profiter de ce pouvoir pour vraiment, en fait, dominer les autres... C'est une forme d'agency. L'agency, c'est quoi ? C'est un concept qu'on utilise en sociologie ou en histoire ou dans d'autres... Je me la pète, mais en fait, ce terme est hyper intéressant et explique... Vous pouvez l'employer dans pas mal de choses, donc vraiment, c'est point vocabulaire. L'agency, c'est la capacité qu'a une personne à avoir des actions dans un contexte où elle est dominée socialement. Notamment, on parle des femmes au Moyen-Âge qui sont plutôt dans un contexte où elles sont dominées socialement. Ben, quelle est leur force d'agency ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans un contexte où elles sont dominées ?
C'est les stratégies en fait, que tu mets en place pour t'adapter à ta situation.
Voilà, c'est aussi on peut aussi parler d'agency pour les personnes racisées dans certaines sociétés, tout ça. Bref, donc, voilà, c'est un concept que je trouve très intéressant qui permet de réfléchir à pas mal de choses. Tout ça. Bon, bref, voilà, j'aime bien ce terme. Eh bien, je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. C'est déjà un chouette épisode de rentrée. Enfin, de rentrée.
De retour.
Merci beaucoup, les filles. Je suis trop contente qu'on ait enregistré. En plus, on a enregistré en présentiel. On est toutes les trois autour de la table.
C'est ça. Vu que géographiquement, on est dispatchés, nos derniers épisodes étaient pas mal à distance. Ça fait plaisir de se retrouver.
C'est aussi ça qui fera qu'on ne sortira pas d'épisodes tous les mois parce qu'on veut pas se mettre la rate au courbouillon pour enregistrer absolument. Oui, j'ai dit cette expression qui doit être interdite depuis 1987, mais c'est pas grave. Mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne rendez-vous à une prochaine pleine lune. On vous dit aussi rendez-vous peut-être sur Instagram parce que je pense que c'est le réseau sur lequel on va communiquer quand il y aura des choses à communiquer.
On est aussi sur Blue Sky et sur Threads qui sont donc un peu des alternatives à Twitter puisque Twitter est devenu un espace pas tellement accueillant quand on défend des valeurs comme le féminisme.
Ça a même changé de nom, quoi, c'est pour en dire.
Voilà, donc bon, enfin, Twitter.
Je refuse de donner le nouveau nom.
Twitter, si vous, si vous voulez. Donc vous pouvez nous retrouver à plusieurs endroits.
Voilà, rendez-vous aussi à une prochaine pleine lune. Salut.
Bye bye. Enfin,
les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.